Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Qui avait justement été interrompu le 7 octobre dernier, comme on avait discuté dans des chroniques précédentes. Donc l'Iran, un peu, qui se rend compte que le rapport de force a changé, que sa stratégie de déstabilisation ne semble pas porter fruit aussi fortement qu'elle aurait espéré.
Ouais, mais ce qui est triste, c'est que je ne sais pas s'il va avoir... On t'a parlé de paix avec l'Iran. Je ne sais pas s'il va en avoir une à l'horizon parce que Netanyahou, en tout cas de son côté, il ne semble pas être très intéressé à faire la paix, surtout sachant que s'il fait la paix, son gouvernement risque de tomber puisque ses alliés fascistes, autoproclamés fascistes, qui s'assument fascistes au sein de son gouvernement, disent « si tu fais la paix, si tu fais un cessez-le-feu, on démissionne, on quitte le gouvernement ». Donc,
puis il y a des pressions aussi, oui, internes politiques, mais de la part de la société civile en Israël. Là, avant l'attaque du 7 octobre, Netanyahou était parti un peu dans une chire, si on veut, antidémocratique, où est-ce qu'il voulait un peu prendre que le parti exécutif, la branche exécutive du pouvoir, contrôle la branche judiciaire, parce qu'il y avait des enquêtes visées sur lui pour corruption, des trucs comme ça. Donc, c'est ça, la crise du 7 octobre, depuis le 7 octobre, ça tient un peu le gouvernement de Netanyahou en respiration artificielle, là, si on veut. Il surfe un peu sur la vague, puis si cette crise-là prend fin, je pense que ça va être l'heure de reddition de comptes sur tout ce qui est politique publique, tout ce qui est corruption à l'interne en Israël, puis ça va pas être un bon moment pour lui. Là.
C'est clairement la fin pour Netanyahou.
Oui, on parle de condamnation là, autant à l'interne, judiciaire. Autant des poursuites judiciaires à l'interne, qu'au niveau international. On a déjà parlé, le fameux mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Mais oui, c'est la situation n'est pas reluisante. Mais une chose qu'il faut dire au moins, c'est que c'est sûr que ça vient juste d'arriver, mais je pense que c'est bien qu'on parle plus du Liban, dans la mesure où, comme on a discuté, le Liban, en fait, ça va mal au Liban depuis des années. Et ça avait été un peu éclipsé par d'autres conflits. Ça avait été éclipsé par le conflit israélo-palestinien, ça avait été éclipsé en partie par le conflit russo-ukrainien. Donc, c'est bien qu'on en reparle parce qu'il va falloir que la communauté internationale, malgré ses multiples interventions dans les dernières années, un peu prenne ses responsabilités, puis bon, puis se dise, bon, là, clairement, on a un devoir d'intervenir parce que ça va pas, là. On peut pas... Oui, l'État. Oui, il y a des gens qui critiquent l'État. L'État est critiquable, mais mieux vaut un État imparfait qu'un gouvernement failli avec pour réel pouvoir exécutif un groupe paramilitaire sans scrupules qui se sert des civils pour ses propres gains idéologiques là, au final.
Quand il y a eu la tragédie du port de Beyrouth en 2020, si je me souviens bien, qui avait vraiment rasé plusieurs bâtiments du centre-ville, là, des gratte-ciels. C'est au cœur de la ville. Là, il y avait un dépôt, qui avait explosé. C'était terrible. Des centaines de gens qui sont morts là-dedans. Puis c'était à une époque aussi où tu avais une hyperinflation puis tout ça. Je sais qu'il y avait eu des discussions pour faire du Liban un protectorat français temporaire. En fait, de mettre une tutelle française temporaire. Finalement, ça ne s'est pas avéré, mais... Bon, puis peut-être que la France est peut-être pas la bonne personne pour mettre sous tutelle des sunnites et des chiites. Les chrétiens, on peut comprendre. Là, la France, historiquement, a un lien proche avec les chrétiens du Liban, mais pour ce qui est du reste, je pense que c'est trop controversé. Mais en tout cas, l'ONU maudit. J'aimerais qu'il y ait du pouvoir de faire quelque chose, mais les gens sont pas capables de se mettre d'accord.
Mais écoutez, je voulais pas être porteur de mauvaises nouvelles. On analyse ça de façon un peu froide et détachée ici, mais ça reste une tragédie humaine sans nom. Tout ça pour dire que j'espère que vous avez, que maintenant on comprend un petit peu mieux tous et toutes la situation au Liban, pourquoi c'est important de s'en préoccuper, le lien qui existe avec le conflit israélo-palestinien, avec Netanyahou, avec l'Iran, avec la région en général, parce que si le conflit s'étendait au Liban, en plus la guerre sur deux fronts, là, on imagine. Oui, Israël est puissante, mais Israël n'a pas des ressources limitées. Donc, ça impliquerait peut-être une intervention américaine, une intervention syrienne, qui sait, d'autres groupes.
La Syrie a occupé le Liban pendant une couple d'années, puis ça a mal fini. Je ne me gagerais pas sur les Syriens, moi.
Ah, ben écoutez, ouais. Peut-être que Bachar al-Assad a décidé de...
Mais parlant de Syrie, en fait, ce qui, ouais, est, surtout, ce qui est ironique, c'est que...
Le Hezbollah n'avait pas combattu pendant la révolution.
Pendant des années, le Hezbollah était allé en Syrie combattre.
Les rebelles, c'est...
Ouais. Oui, mais ce qui est ironique, c'est qu'il y avait des Syriens qui étaient réfugiés au Liban dû à la guerre civile en Syrie. Puis maintenant, ben, il y a des Libanais qui sont réfugiés en Syrie. C'est sans fin. Ben anyway, on tourne un peu en rond avec ça, mais moi, je veux juste saluer toute la communauté libanaise du Québec parce que c'est des gens vraiment nice. Mm. Puis vous avez une culture formidable et incroyable. Mm. J'aimerais ça pouvoir jouer du Fayrouz en ce moment, s'il y en avait dans la banque de musique ici, mais on peut pas. Mais Charlotte au Liban... un de mes pays préférés au Moyen-Orient.
Et moi aussi, je vais me permettre un dernier shout-out. Je tiens à souligner là, les excellentes entrevues et articles et prises de parole du professeur émérite du département de l'École de politique appliquée, professeur Sami Aoun, qui a toujours des sages paroles pour analyser le conflit. Donc, je tiens à vous dire, là, moi, je suis un amateur, mais si vous voulez avoir un professionnel qui connaît de quoi il parle à 100%, je vous invite à écouter les analyses de professeur Aoun.
Par ailleurs, on a un balado avec le professeur Aoun, donc c'est super. Oui, merci beaucoup Rémi pour ce tour d'horizon assez large de la situation au Liban. On aura l'occasion d'y revenir au courant des prochaines semaines puisque ça finit plus, maudit. Mais il y a une affaire qu'on aimerait que ça finisse. En tout cas, personnellement, j'aimerais que ça finisse, c'est le règne de Jupiter en France. Monsieur Emmanuel Macron qui se prend pour Macron. Hein, qui se voit grand, mais qu'en fait, c'est un petit homme.
Renaud Bézi.
Il agit dans la petitesse, l'étroitesse d'esprit. Et c'est ce que je retiens, moi, de sa visite au Canada. Qu'est-ce que tu en retiens, Félix? Je te parle là-dessus.
Je t'avoue que je pense que son refus de reconnaître la formule du Nini, mais je vais en revenir, me choque pas autant. Ben, elle me choque. Mais pas au point de...
Mais est-ce que tu voulais commencer ta chronique avec ça, avec
je vais y aller chronologiquement.
OK.
Ben mais on finit.
Parce qu'il y a quelque chose de choquant qui s'en vient, gang.
Ouais.
Restez en onde.
Tu vas voir.
Hey, mais attends, là, il est 42. Je pense que je vais faire la pause. Puis comme ça, on a l'occasion de vraiment rentrer dans le sujet sans interruption en revenant. Donc, ce sera pas très long. J'aligne... Voilà. Donc, on se revient dans pas long. Salut, gang. De retour en onde. Et donc, c'est ça. On va lancer sur notre Jupiter de Paris. Là.
Notre Jupiter, Félix Soir. Donc, bon, voilà, encore une fois, hein, à votre grande surprise, mon radar à sujet de chronique, ben, il s'est encore arrêté sur la France. Mais bon, cette semaine, c'est différent. Parce que je vais vous parler de la France au Canada. Donc, voilà. Et oui, ben, je vais aujourd'hui vous parler de la visite du président français, notre cher Emmanuel Macron, à Ottawa et à Montréal, qui s'est déroulée du 25 au 26 septembre, donc dernier. Donc, c'était mercredi et jeudi passé. Qui est quand même un séjour assez court, là. Mais c'était en marge du sommet des Nations Unies à New York, là, qui s'était tenu quelques jours auparavant. Donc voilà, cette première visite de Macron au Canada, c'est la première depuis celle du G7 en 2018 à Charlevoix, au manoir, elle peut sembler comme une visite des chefs d'État qui est genre l'idée plus banale qui soit, mais en réalité, elle a permis de remettre en lumière des éléments intéressants et des enjeux particuliers qui sont au centre de la relation notamment entre le Québec et la France. Donc, rapport froid de fait, encore une fois. Donc, pour Justin Trudeau, cette visite-là, ça lui a permis d'annoncer conjointement avec Emmanuel Macron des déclarations classiques en mode de visite de politiciens sur des enjeux tels la sécurité, la paix internationale, la lutte au changement climatique, notamment par la décarbonation. Hein, on connaît la décarbonation par les éolien, c'est purement canadien, et aussi l'intelligence artificielle, donc voilà, toutes les opportunités qui pourraient se présenter aux deux pays pour justement exploiter cette nouvelle technologie. Outre ces déclarations-là, la réunion entre les deux chefs d'État, elle a permis de rappeler, de remettre en lumière cette espèce de destin commun qui lie Macron et Trudeau. Ils ont été élus dans des époques assez semblables, sous couvert de renouveau, d'apporter la jeunesse, une nouvelle vision de jeunes politiciens, puis aussi de mettre de l'avant un programme libéral aux mesures libérales au sens pur du terme, là, pas en mode américain frustré. Là, mais...
Non, en mode économique.
Là. Voilà. Ouais. Mm-hmm. Puis, donc, ouais, c'est ça. D'ailleurs, ils sont aussi confrontés à une usure du pouvoir. Bon, aux effets néfastes de l'usure du pouvoir, là, on le voit. Le gouvernement Trudeau n'est pas tombé la semaine dernière, mais bon, on estime que ça s'en vient.
C'est une question de temps.
C'est une question de temps. En France, ça s'articule d'une autre façon. Il y avait des élections.
Macron démission.
Ouais, Macron démission. Donc, non-respect de la voix populaire.
Mais sans blague, c'est sûr que là, en fait, on est dans. Il n'y a plus tant de pouvoir que ça, puisque c'est un parti d'opposition, en quelque sorte, qui est partiellement au pouvoir. Son pouvoir est limité maintenant.
Contrôlé par le RN et Marine Le Pen.
Oh, oh là là. On y revient tantôt, Blaise, parce que.
Parti. Mais on peut pas dire que c'est un gouvernement de cohabitation. Là.
Ouais, pas vraiment.
Non. Donc,
mais disons que Macron était au pouvoir, au contrôle du pays depuis 2017. Puis là, en fait, son pouvoir aujourd'hui, il se trouve beaucoup plus limité.
Et beaucoup plus à droite.
Pouvoir limité, mais pouvoir quand même au niveau des relations internationales, au niveau de la diplomatie, au niveau, n'est-ce pas, des
la défense
des contacts, la défense, oui. des contacts avec les chefs d'État qui restent sans limite en théorie. Là. Dans les faits, en pratique législative, c'est limité par ce que vous avez dit. Mais ça reste justement, ça crée une dichotomie hein, où est-ce que le président Macron n'a plus... Techniquement, il a les pleins pouvoirs. Après, dans la réalité concrète, réelle, est-ce que... Les Français, les Françaises et les Français sont satisfaites.
Mais là, on dérive un peu du sujet. Là. Je vais essayer de recentrer la chose. Là.
Mais oui, revenons à Macron.
Mais, oui,
voilà. Mais bref, donc justement, deux chefs d'État qui sont confrontés par l'usure du pouvoir à une montée de la droite qui est quand même assez significative. Donc au Canada, on le voit avec les conservateurs qui détruisent littéralement les sondages. Je pense qu'on en a vu ce matin, c'était assez inquiétant. Puis en France, la montée de la droite, on connaît, c'est un sujet redondant, puis qui est caractérisé justement par l'arrivée d'un gouvernement qui est pas mal plus à droite que le précédent. Mais bref, d'ailleurs, questionné sur la montée de l'extrême droite en France dans l'entrevue, d'ailleurs très belle entrevue visuellement de Radio-Canada, Macron estime que justement la montée des droites extrêmes en France est la conséquence directe de la fatigue des électeurs qui, et je cite, « voient l'extrême droite comme une option qu'ils n'ont pas encore essayée ». Bon, drôle, je trouve que c'est assez curieux, genre c'est une drôle de dissonance cognitive. En tout cas, j'ai éprouvé un certain malaise quand j'ai...
Moi, je suis quand même d'accord.
Bah oui!
Non, parce que... En tout cas, on y reviendra.
Est-ce qu'on a vraiment essayé un programme de gauche en France?
Ah, ben là, c'est une bonne question. C'est quand la dernière fois qu'il y a eu de la vraie gauche au pouvoir en France? Bonne question.
Puis la dernière fois qu'il y a eu de la droite, l'extrême droite au pouvoir en Europe, on a vu ce que ça l'a donné.
Attends.
C'est la vérité.
Les faits ne mentent pas.
Je veux dire, regarde Giorgia Meloni, là, c'est la politicienne la plus populaire en Europe ce moment.
La popularité, ça veut pas dire que c'est bon.
En tout cas. Non, mais c'est-tu la catastrophe en Italie? En tout cas, bon.
Est-ce que c'est moins la catastrophe qu'avant?
Oui. Moi, je pencherais vers oui. Anyway, hey, là, on dérive du sujet. C'est... En tout cas.
Mais bon, alors que... Là, on vient au... croustillant, comme on dit. Donc, alors que le journaliste l'a interrogé par après sur la relation France-Québec, donc Macron a, contrairement à son ancien PM Gabriel Attal, qui était très féru, supportait la laïcité québécoise, avait fait un... Bon, là, je me sens mal de... comme on dit en anglais, glaze, Gabriel Attal, mais
beaucoup plus de largeur d'esprit. Voilà. Il avait plus...
C'était beaucoup plus traditionnel.
Il montrait beaucoup plus qu'il comprenait le Québec, qu'il était solidaire avec les Québécois.
Ouais, c'était beaucoup plus français dans le sens moins individuel. Je sais pas si tu comprends. C'était moins ses opinions à lui.
Exact. Il y avait la conscience de l'héritage historique et civilisationnel de la relation France-Québec.
Voilà. Donc voilà, Macron... contrairement à Gabriel Attal, a été plus ambivalent, voire hésitant, à adopter la position traditionnelle de non-ingérence, non-indifférence que les dirigeants français traditionnellement adoptent à l'égard du sort du Québec dans la Fédération canadienne, donc sur le plan culturel ou d'émancipation.
Peux-tu résumer brièvement qu'est-ce que c'est cette position-là, non-ingérence, non-indifférence?
En gros, c'est une position qui place un peu la France genre comme un peu au milieu de toute cette histoire-là qui sans appuyer formellement le Québec dans ses envolées nationales, n'est pas aussi genre à 100% dans le camp du Canada, ce qui fait qu'il ouvre la porte à... il ne ferme pas la porte, en tout cas, à un éventuel support, par exemple, quand il y avait eu le référendum de 95, ou à un déni total de la condition québécoise.
Ouais, c'est ça, mais en fait, non-ingérence, c'est ça, veut dire qu'ils ne viendront pas directement intervenir dans le processus d'accession à l'indépendance. Mais si le Québec fait sa job comme il faut, démocratiquement, etc., puis se rend à la déclaration d'indépendance, non-indifférence veut dire « Ah ben là, on va faire notre job de vous soutenir. »
On est conscient de
En fait, c'est qu'on va soutenir l'indépendance du Québec si le processus est bien fait.
Ouais, puis voilà, c'était une formule qui a été pensée par le ministre Alain Perfit, donc ministre gaulliste, Renaud. On connaît ton affection pour les gaullistes.
J'adore le gaullisme.
Si je peux me permettre une comparaison boiteuse, c'est un petit peu comme le concept des deux Chines, là. Employés entre autres par les États-Unis. Là.
Ouais.
Grosso modo, dans la mesure où les États-Unis...
Ah, par rapport à Taïwan.
Oui, par rapport à Taïwan.
Mm-hmm.
Donc, question de... On reconnaît la souveraineté de la République populaire de Chine, donc de la Chine qu'on connaît aujourd'hui, du Parti communiste, mais on ne nie pas l'existence de Taïwan. On est un peu ouf.
Mais il y a une dimension historique, puis je le mets en gros guillemets, mais en même temps d'affection, qui est comme plus romantique. Qui est comme plus profonde
entre
la France et le Québec, les États-Unis et Taïwan.
Une transcendance.
Non, nécessairement. C'est juste pour dire que le Québec n'est pas la seule nation à avoir des enjeux de reconnaissance de sa souveraineté.
Mais justement, tu parles que c'est ça, il y a une dimension romantique et historique à cette doctrine-là du nini. Puis le fait que Macron la répudie, comme Sarkozy.
Voilà.
Illustre bien c'est qui ces deux personnages-là, ces deux présidents-là, c'est-à-dire c'est des hommes postmodernes, profondément ignorants, qui refusent, disons, la responsabilité face à l'histoire puis la grandeur de leur nation, puis qui préfèrent être des petits hommes dans la tyrannie du présent. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le retiens.
Bien formulé. Je te dis que je peux pas être...
Je voulais pas te...
Non.
C'est ta chronique, hein.
Ah, mais... C'est très libre. Mais bref, donc là, justement, là, cette formule-là de non-ingérence, non-indifférence, la France à l'égard du Québec, elle a été comme plus adoptée, elle a été adoptée comme plus formellement, elle est comme entrée dans les annales, donc depuis 1977, sous le gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing. Au revoir, Blaise. Et puis, justement, cette formule permettait au Québec de compter sur l'appui discret. Je voulais dire ambivalent, mais c'est pas le mot juste. Discret non plus d'ailleurs, quant au destin national du Québec. Et il faisait donc de la France un allié de taille du Québec, tout en permettant à Paris, grâce à l'aspect justement non explicite de cette formule-là, de conserver des bonnes relations avec Ottawa. Donc c'était comme une formule gagnant-gagnant des deux côtés, en fait, de la médaille. Donc justement, tu en as parlé, Renaud, c'est la première fois qu'un président français il ne se positionne pas conformément à cette formule, ou plus généralement un dirigeant français depuis Nicolas Sarkozy en 2008 qui avait un peu tenu les mêmes propos que Macron, mais de manière plus explicite, le Canada est un ami, blablabla, et tout ça. Donc en réaction à cette non-adoption de la formule non-non ou ni-ni, là, les appellations sont différentes pour tout le monde, mais le chef du Bloc québécois, donc Yves-François Blanchet, a déclaré que par ce refus, Macron il n'exprime pas la sympathie envers le Québec que ses prédécesseurs ont eu par le passé. Puis Yves-François Blanchet n'a d'ailleurs pas été invité à la cérémonie protocolaire à Ottawa. Donc il a qualifié Justin Trudeau de mesquin et de pire ambassadeur qu'on puisse imaginer pour partager la réalité du Québec. Donc là, on voit que ça va venir avec le prochain point, mais on embarque. Cette visite-là aussi un peu brassé la sauce, si je peux dire, dans tout le commérage puis la chicane qui se passe
au Canada. L'électoralisme.
Ouais, oui aussi. Mm-hmm.
Jeux de sondage.
Ouais, puis les prises de bec, là, comme personnelles entre nos hommes politiques. Donc voilà, qui se traduit depuis quelques semaines. Donc, au dernier jour de sa visite, donc jeudi, Macron a rencontré François Legault au musée Pointe à Calière à Montréal. Ils ont discuté notamment d'immigration, Donc, François Legault a quand même fait une comparaison étrange avec la situation migratoire du Québec et de la France. Donc, je vais le citer. Les Français se sentent bousculés par l'immigration. C'est le même sentiment ici au Québec. J'aimerais discuter de notre approche avec les demandeurs d'asile. Donc, en tout cas, j'ai l'impression que toutes les aléas de l'immigration en France se positionnent plus sur l'aspect identitaire. On le voit avec la montée du Rassemblement national. Plus identitaire et sécuritaire, mais vraiment au niveau sécurité, genre un peu en mode dans les traditions de la droite, extrême droite, donc vraiment miser sur l'aspect de l'étranger. Tout en lien avec le grand... Je dis pas que Macron, évidemment, n'adhère pas à la théorie du grand remplacement, mais j'ai l'impression qu'avec toutes les vagues comme anti-immigration, le refus de l'immigration en France, je trouve qu'il n'est pas comparable au Québec, considérant les deux...
La situation est vraiment plus dramatique en France aussi.
Oui, mais je parle... Les Québécois sont plus réticents à l'immigration pour des raisons totalement différentes, puis un but au final qui est totalement différent que les Français.
Exact, parce que la nature de notre immigration n'est pas la même aussi.
Voilà.
Nous ici, notre immigration est généralement très sélectionnée sur le tri, t'sais, en fonction du système de points. On a des gens beaucoup plus qualifiés. Puis
les enjeux sont différents.
Ouais.
Fait que je trouvais ça assez curieux que François Legault compare la situation, pas la réticence, mais la réticence à l'immigration entre les Québécois et les Français, je trouvais ça un petit peu...
Partez-moi pas sur Legault et l'immigration, parce que c'est le pire des hypocrites.
Voilà.
Ah là là.
Rémi,
une autre prise de bec un peu reliée à cette rencontre-là entre Macron et Legault.
C'est... La loi sur la capitale nationale.
Exactement, voilà. Mon cher.
Oui, merci.
Comment l'opposition... à l'Assemblée nationale, oui, et le maire Bruno Marchand, maire de la ville de Québec, ont critiqué cette rencontre qui a eu lieu à Montréal, plutôt que
à Québec,
à la ville de Québec, là, la capitale nationale du Québec.
On accueille un dignitaire étranger de haut calibre. Le protocole diplomatique dit on l'accueille dans la capitale, puis c'est dans notre loi.
Ouais, c'est une loi.
Et le premier ministre... Qui se dit nationaliste et nanana, et le Québec, c'est nice, contrevient à sa propre loi.
Ça
on se tire dans le pied constamment avec ce gouvernement-là. Je suis tanné.
Moi, je trouve que c'est plus le gouvernement lui-même qui se tire dans le pied, mais bon, faut pas.
Ouais, mais c'est humiliant pour
la
crédibilité du Québec par rapport à sa propre
diplomatie.
Oui.
Paradiplomatie, puis ça montre aussi comment. En toute franchise, comment parfois on dirait que le gouvernement de la CAQ semble pas porter une attention franche et sérieuse au niveau des relations internationales.
Il transforme beaucoup ces relations-là en relations plus économiques.
Exactement. La dimension business, affaires est toujours présente. Même chose avec le fameux bureau du Québec à Tel Aviv qui est un peu étrange comme décision de diplomatie, de paradiplomatie, d'implanter un bureau à Tel Aviv actuellement dans le contexte avec le conflit israélo-palestinien.
Les beaux bidous.
Les beaux bidous, n'est-ce pas? Mais bref.
Ouais, je fais des signes en ce moment dans le studio.
Un autre exemple, une autre couche là, qui se rajoute sur parfois les décisions questionnables sur la question des relations internationales du Québec.
Mais il n'y a pas de vision, ce gouvernement-là. Excusez-moi, là, c'est parce que. On parle d'immigration. Legault arrête pas d'essayer de faire des points politiques sur l'immigration en disant qu'il faut réduire. Puis là, il a appelé récemment à élire Poilievre indirectement, ce qui est complètement irresponsable parce que le Québec, là, que ce soit un gouvernement libéral, péquiste, caquiste, a toujours intérêt à avoir plus de députés du Bloc québécois parce que ces députés-là, ils ne répondent qu'à une seule chambre d'assemblée, qu'à un seul peuple, c'est le peuple du Québec. Les députés conservateurs, excusez, je ne veux pas partir là. C'est parce que là, je t'en ai, je garde ça en dedans là, depuis des semaines. Là, parce que je vois toutes les conneries qui se disent.
Bon, bien évidemment, on est dans la chronique. Alors,
oui, on je le sais. C'est le moment Cube Radio. Là, c'est le moment Gilles Proulx. Je suis désolé. Avec moins de vulgarité. Mais t'as toujours. Parce que les députés conservateurs du Québec, ils vont toujours être minoritaires dans leur caucus. Puis ils vont toujours être en minorité pour faire passer certaines choses. Puis qui c'est qui va peser toujours plus? Ça va être l'Ontario, ça va être l'Alberta, c'est structurel. Puis en plus, autre point, Pierre Poilievre, il n'y a rien promis pour le Québec. Il n'a même pas promis qu'il allait baisser les seuils. Il n'a même pas promis qu'il allait rapatrier des pouvoirs en immigration, les demandes de base de François Legault, tandis que le Bloc s'engage toujours à les pousser au maximum. Puis en ce moment, on a un rapport de force pour aller chercher des avantages auprès de Justin Trudeau, puisqu'il est minoritaire, puis le Bloc peut le maintenir en vie en demandant des concessions. C'est ce qu'il demande avec les aînés, puis avec la gestion de l'offre agricole. Bon, est-ce que choisir les aînés, bon, c'est correct, là. Je veux dire, il y a des gens qui en arrachent au Québec. Mais en tout cas, anyway, je ne partirai pas là-dessus. Mais parce que, je veux dire, tant qu'à ça, les demandes traditionnelles du Québec concernant l'immigration, ce serait le temps d'aller les chercher. Mais en même temps, je pense que Trudeau, il n'y a aucune chance qu'il l'accorde.
Mais la question des...
Oh, excusez, je suis décousu, là.
Mais
Legault, attends, je peux-tu juste dire une autre affaire?
Vas-y fort, mon cher.
François Legault, arrête pas de casser du sucre c'est sur les immigrants, puis de politiser le sujet. Puis de dire que là, tout d'un coup, il faut les réduire, puis demander à Ottawa de les réduire. Mais sacrement, il y en a plein dans son champ de compétences des immigrants temporaires qui pourraient réduire. Puis c'est lui, depuis 2018, qui monte les seuils, alors qu'il avait promis qu'il allait en prendre moins, puis pour en prendre plus soin. Qu'est-ce qu'il fait? Il en prend plus, puis il en prend moins soin. Il a réduit il a réduit l'argent en francisation, il a réduit l'argent pour les services d'accueil. En tout cas, je suis désolé. Moi, c'est un hypocrite qui fait juste du discours politique, puis ça s'accompagne jamais. Il n'est même pas cohérent avec lui-même. En tout cas, excusez, fallait que je parte sur un rant. Je m'excuse, les gars.
Ah, c'est correct.
Je gardais ça dedans.
mais en fait, pour revenir sur la question de l'accord Canada-Québec là, relatif à l'immigration, une des choses, on a eu un fonctionnaire qui travaille pour le conseil, en fait, pour le secrétariat là, des relations entre le Québec et Canada, qui nous parlait en fait que M. Julien Domingue, que je salue par ailleurs pour son expertise, qui nous parlait qu'en fait, la question de la renégociation de cet accord pour qui en fait qui va vraiment venir déterminer les différentes catégories d'immigration, à quel point le Québec en prend, qu'est-ce que le fédéral prend en priorité, comment c'est redistribué, qui a été négocié en 1991. On s'entend, pour ouvrir cet accord-là, ça prend l'accord des deux parties. Donc, il faut qu'à la fois le Canada... En fait, même si le Québec a la volonté, il faut que le Canada accepte de rouvrir l'entente. Donc, pour l'instant, c'est pas dans l'intérêt du Canada de le faire. Donc, c'est quand même difficile d'aller négocier des avantages au niveau de l'immigration, d'aller renégocier ça, tant qu'il va y avoir un gouvernement libéral, même... Mais après ça, d'autres analystes qui disent « Est-ce que les conservateurs vont réellement être plus conscients sur l'immigration? » Et là, après ça, ça peut justifier certains discours souverainistes de certains partis québécois et de certains chefs du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui disent ben, « En fait, que ce soit un gouvernement libéral, que ce soit un gouvernement conservateur au fédéral, ça ne change rien au niveau de l'immigration. Ça ne change rien au niveau des conditions migratoires pour le Québec. »
Nadeau Dubois a dit aussi quelque chose de similaire là, récemment. Là.
Oui, je pense que ça fait pas mal consensus d'un point de vue souverainiste que le gouvernement fédéral, pour les questions migratoires, c'est pas dans l'intérêt du Québec. Là,
mais pour la CAQ, qui est censée être un parti qui est sur la ligne entre la souveraineté puis le fédéralisme, qui se dit autonomiste, et on n'en voit pas grand manifestation contre
l'autonomisme.
Puis en plus, c'est qu'il pourrait juste des fois faire des petits hints, juste lancer des petits ballons en disant « Si le fédéral ne donne pas ça, ben on va... » T'sais, en fait, récemment, il a créé un comité là, sur le statut du Québec. Nanana. Bon, ça peut très bien que ce soit juste des rapports tablettés, comme ça l'est souvent, comme Bourassa a fait pendant 4 ans, pendant qu'il... Je fais shout-out au livre Le Tricheur de Jean-François Lisée, au début des 90, qui montre comment Bourassa a niaisé le Québec pendant 4 ans. Legault est en train de faire la même chose. Bon, anyway. Excuse-moi, Félix. Excuse,
non, mais...
j'ai vraiment de la passion aujourd'hui, je suis vraiment... Non,
c'est,
excusez.
C'est correct, Renaud, des fois, il faut faire sortir le jus.
Oui, vas-y. Ils sont tellement nuls. Oh. Ouais.
Mais, justement, pour ajouter à l'injure, je vais finir ma chronique en mentionnant le fait que lors d'un souper, en fait, il y avait un souper d'organisé par le fédéral à Montréal, donc la soirée de la visite de Macron à Montréal, un souper, là... un banquet qui devait réunir justement des membres du gouvernement québécois, donc des ministres, notamment le ministre Roberge, la ministre Richette, en tout cas la ministre Biron et le premier ministre, évidemment. Justement, il n'y a personne qui est allé. Donc, il n'y avait aucun représentant du gouvernement québécois à ce souper-là. Pourtant, il avait été invité. Mais bon, il y a plusieurs trucs, plusieurs raisons là, qui sont sorties, comme quoi là, l'invitation s'est arrivée trop tard, blablabla. Bla, bla. Mais au final, je trouve que ça témoigne juste là, encore de cette espèce de prise de bec là, entre Justin Trudeau et Legault, qui, même lors d'une visite internationale, d'une visite des chefs d'État, en tout cas, fonder des petits enfantillages là, en se présentant pas, des soupers qui auraient pu être importants, qui auraient pu. Justement, être important pour le Québec, tu sais, parce qu'il y a beaucoup d'accords qui se discutent.
Ouais, mais moi, j'aurais aimé croire. J'aimerais croire
Moi aussi, j'aimerais croire que c'est en réaction au fait que Macron a refusé d'adopter la formule non-indifférence, non-ingérence. Mais honnêtement, connaissant notre François Legault et sa passion pour les relations internationales et tout cet aspect diplomatique.
Et son courage.
Et son courage.
Son courage. Ouais. Un homme courageux. Ça, c'est un vrai leader.
Ouais. Donc voilà, donc je pense pas que c'est vraiment ça qui s'est dit, mais bref, donc c'est ça. Donc dédicace spéciale aux jeunes caquistes qui, comme d'habitude, enivent les passions et nous remplissent d'espoir.
Oh là là. Bon, ben merci Félix. Excusez, c'est parti en vrai. Ah,
c'était complètement éclaté, mais.
Ben, parce que c'est venu chercher des cordes sensibles, là. Puis, maudit, j'ai pas dîné, j'ai déjeuné à 11h.
Mais
voilà.
Écoutez, faut dire, les chroniqueurs, parfois, peuvent faussement se prétendre purement objectifs, purement rationnels et purement froid et calculateur, mais sur certains sujets, là. C'est difficile de rester indifférent, là, surtout quand ça touche à la notion oui, de souveraineté du Québec. Là, c'est... Voilà.
L'important, si on prend position critiquement, c'est de le faire avec rigueur, je crois. Bon, là, ça, voilà. Peut-être que ça manquait un peu de rigueur et de planning. Dans ma critique, c'est vraiment sorti du fond du cœur. Mais on connaît,
Renaud. On connaît. Ouais.
Mais vous avez le droit aussi. OK, bon, on va aller, on va prendre une petite pause pour nous et pour vous. Et on va aller, on se retrouve dans quelques minutes. Salut tout le monde. De retour après cette longue pause, on en avait besoin. Oui, donc là, je suis un nouvel homme. Tout est réglé. C'est pas vrai. Là, je vous parlais maintenant de l'Autriche, qui a eu des élections législatives, en fait, hier. Ça faisait 5 ans, en fait, qu'il n'y en avait pas eu. Et il y a eu du changement en Autriche. Bon, pour vous mettre en contexte, en fait, l'Autriche avait depuis 5 ans un gouvernement conservateur, centre-droit, qui était au pouvoir en coalition avec les Verts, en fait, les écologistes. Donc, ça formait vraiment un centre droit assez mou avec des tendances écologistes sur toutes les questions. C'était assez modéré. Il y a eu plein de chocs, en fait, au courant de ces 5 ans. En fait, il y a eu un scandale de corruption qui a touché ce parti de centre droit conservateur qui a mené à la démission de l'ancien premier ministre Sébastien Kurz. Qui a mené à un remplacement à la chancellerie. En fait, on ne dit pas un premier ministre en Autriche. Comme en Allemagne, on appelle ça la chancellerie, le chancelier. Et c'est en fait Karl Nehammer qui était à la tête du pays depuis maintenant 4 ans. Et en fait, c'est ça. Les élections d'hier, en fait, ont vu une chute de son parti de quelques points de pourcentage, en fait. Je vais vous donner maintenant les résultats. En fait, le parti qui a fini premier, c'est le FPO. C'est le parti, en fait, de droite radicale, on pourrait dire, Parti pour la liberté en français, qui a fait 29 % des suffrages et qui se retrouve donc avec 58 sièges au Parlement autrichien. Ensuite, on a l'OVP, qui est donc le parti que je vous parlais, conservateur, centre-droit, qui a fait 26,5 %, qui se retrouve avec 52 sièges. Ensuite, on a bon, les sociaux-démocrates, le SPO, qui ont historiquement dirigé pendant très longtemps le pays en Autriche, qui ont fait 21 %, donc 41 sièges. Ensuite, on a Neos, des libéraux de centre, qui ont fait 9 %, 17 sièges. Et enfin, ben, les Verts, en fait, ont vraiment connu une chute drastique de leur vote. Ils sont maintenant tombés à 8 %, 15 sièges, suivant une tendance en Europe de baisse de la popularité des Verts, un essoufflement général de ces partis. On pourrait aller dans plusieurs pistes d'explication, mais c'est pas là que je veux m'en aller. En fait, ce à quoi je m'intéresse plus, et ce qui marque vraiment les esprits en ce moment en Europe, c'est le fait que la droite radicale soit arrivée première. C'est une première dans l'histoire. La droite radicale, le FPÖ, avait déjà fait partie de coalitions gouvernementales, mais jamais avec, disons, en étant le parti le plus fort. Et maintenant, donc, ils ont un énorme rapport de force pour amener leur politique. Si un parti daigne, en fait, accepter de faire une coalition avec eux, puisque vous avez... En fait, en Autriche, il faut 92 sièges pour former une majorité parlementaire, et vous l'aurez compris, aucun de ces partis n'est capable de former de majorité. Comme c'est souvent le cas dans les pays européens, il faut faire des coalitions. Mais qui, en fait, va être prêt à faire une coalition avec le FPÖ? Parce que, écoutez un peu, je vais vous dire qu'est-ce qui a été mis de l'avant par le FPÖ, en fait, dans les discours comme dans le programme. Bon, d'abord, il y a l'idée qu'il y a du communisme climatique. Hein? Donc, oui, c'est du communisme en 2024. C'est une idéologie, c'est un programme politique très populaire, le communisme.
Ni plus ni moins.
Oui, ils sont partout. Hein? Mm-hmm. Ils sont partout, les communistes. Bon, ici, sur le campus étudiant, on peut voir souvent la riposte socialiste. Mais au final, soyons sérieux. Soyons sérieux, le communisme, aujourd'hui...
C'est fini.
Ouais, non, finito, hein, c'est ça. Finito, comme dirait finito, bon, comment il s'appelait, là, le personnage dans Elvis Graton? Pinochet, là. Il avait donné un nom. Bon, oups. Santa Banana, là. T'sais, vous avez déjà vu ça, là? Finito, Coca-Cola. Finito, Elvis Presley. OK, je pars en vrai. Ça n'a pas d'allure aujourd'hui. Excusez. Mais bref. Donc, c'est ça. Il nous parle de communisme climatique. Il nous parle également qu'il faut faire de l'Autriche une forteresse, en fait, où on ne fait plus rentrer de migrants. Et non seulement on n'en ferait plus rentrer, mais en fait, on en expulse. Puisque, c'est pas unique à l'Autriche, ce type de programme-là, de vouloir, par exemple, expulser les clandestins qui commettent des crimes. Et c'est aussi quelque chose qui est envisagé par les conservateurs. Cependant, le parti FPÖ de droite radicale va plus loin en parlant de remigration de gens qui sont nés en Autriche, mais qui sont d'origine étrangère. Ouais, on est vraiment dans un... Dans une paranoïa de tout ce qui est d'origine étrangère. C'est assez lourd. Je pense que... Bon. Mais bon, c'est triste qu'on en soit là. Ben, mais par contre, je pense pas que ce soit réalisable au niveau du droit européen. On met des limites assez strictes là-dessus. Puis probablement que même en Autriche, la Constitution... Oui, Rémi?
Oui, justement, cette élection-là, l'Autriche... la place de l'Autriche dans l'Union européenne va être remise en question définitivement. Là. Ouais. Un peu à la Orban en Hongrie. Là. J'en ai
ouais,
bien
ben,
peur.
C'est ça, c'est s'il y avait la majorité, en fait. Là, il va falloir qu'ils fassent des compromis si jamais ils arrivent au pouvoir. Mais effectivement, dans leur programme électoral, il y a l'euroscepticisme à fond. On remet en question l'Union européenne. Et aussi, on remet en question... l'Autriche ne fait pas partie de l'OTAN. C'est pas dans les pays qui soutiennent le plus l'Ukraine. Ils se gardent un peu en retrait parce qu'ils ont une politique historique de neutralité depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, ils donnent une partie de soutien, mais même cette petite partie, en fait, le FPÖ veut la retirer. Sinon, il y avait une autre chose que je voulais dire sur leur programme électoral qui est assez spécial. On dirait que ça m'échappe en ce moment.
L'économie, l'immigration, l'environnement.
Ah, c'est quoi? Ah oui, c'est la COVID! Oui, 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 ils disent que, bon, comme d'autres, ils disent que c'était une dictature sanitaire. Mmh. Oui, dictature, vous voyez, encore là, on utilise des mots qui sont ancrés dans le réel. Non, mais tu sais, moi, je peux comprendre qu'on dise parfois qu'il y a eu des abus de pouvoir durant la COVID. On a été parfois... restrictif sur certains droits. C'est vrai, on a eu des démarches parfois un peu radicales, le couvre-feu, on peut critiquer ça. Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que c'était utile scientifiquement? Est-ce que ce qui était fait était backé par la science toujours? Ou parfois, est-ce qu'on essayait d'éteindre des feux sans savoir ce qu'on faisait vraiment? Il y a des débats qu'on peut avoir là-dessus, tout à fait pertinents, tout à fait, respectables. Mais bon, le FPÖ préfère parler de dictature climatique de communisme climatique et de dictature sanitaire. Oui, c'est ça. Donc, vous voyez que c'est un parti spécial, pour utiliser un terme poli. Et en fait, le premier ministre, le chancelier sortant, Karl Nehammer, dit que, puisque comme dans le passé, il y a eu des coalitions avec le FPÖ, il n'est pas complètement fermé à l'idée de faire une coalition avec le FPÖ, mais pas avec le dirigeant actuel, Herbert Kickl, qui considère comme étant quelqu'un de très radical. Il fait partie de l'aile droite du parti de droite radicale. Donc, on peut se dire que c'est peut-être pas un homme du compromis républicain. Hein. Donc, voilà. Sinon, donc c'est ça, pour le FPO, en fait, ils n'ont pas la capacité de former un gouvernement à eux seuls. Et qui accepterait, en fait, de former un gouvernement avec eux? Il y a juste les conservateurs qui se sont montrés ouverts, puis même là, ça va demander beaucoup de concessions de la part du FPO. Mais autrement, si le FPO ne réussit pas à obtenir de soutien dans les négociations, il se pourrait, en fait, qu'on assiste à une grande coalition des partis autour du centre, donc l'OVP, les conservateurs de centre-droit, le SPO de centre-gauche. À eux seuls, en fait, ils disposent de 93 sièges, donc c'est une majorité très mince. Ça se pourrait qu'ils aillent chercher les libéraux, Neos, pour les soutenir. Mais le temps de former un gouvernement à trois partis, ou même à deux partis, les négociations vont prendre des mois. Donc, on peut être sûr que d'ici à Noël, il n'y aura pas de gouvernement en Autriche. Et en fait, ça reflète un peu c'est quoi généralement la situation politique en Europe. Tout ce que j'ai dit depuis tantôt, en fait, autant les discours que les résultats électoraux, que l'incapacité à former des gouvernements stables, et en tout cas la longueur que ça prend à en former, la multiplicité des partis dans les coalitions, ce phénomène auquel on assiste par exemple aux Pays-Bas, pour ceux qui ne connaissent pas depuis longtemps, qui auraient peut-être entendu parler, à l'automne dernier, il y avait eu des élections aux Pays-Bas qui avaient vu l'extrême droite arriver première dans les suffrages. Ça a pris des mois, c'est juste cet été en fait qu'on a eu enfin un gouvernement digne de ce nom aux Pays-Bas. Et encore là, le chef du parti d'extrême droite, Geert Wilders, était vu comme trop toxique pour être au sein du gouvernement. Donc, c'est juste donc, il n'est pas ministre. Et c'est un gouvernement à quatre partis, une coalition de quatre partis. Si on regarde en Allemagne, trois partis, puis c'est chambranlant, c'est extrêmement compliqué. Si on regarde la France, bon, en théorie, on a un gouvernement en ce moment, Félix en a parlé la semaine dernière. Mais c'est un gouvernement qui est extrêmement précaire, qui pourrait tomber dès que le Rassemblement national dit que ça ne fait plus leur affaire. Ce qu'on voit, c'est que la politique européenne est globalement, surtout en Europe occidentale, extrêmement fracturée. Sur la question de l'immigration particulièrement, on n'est pas capable de... Ben, c'est pas vrai de tous les pays, mais on a de la difficulté à établir un consensus sur la question qui soit modéré. Où en fait on reconnaît qu'il y a des problèmes. En fait, on se rappelle que l'Europe, en fait, depuis 2015, a accueilli des millions et des millions de réfugiés, de demandeurs d'asile. Il faut faire la distinction entre ces gens-là, puisque c'est pas le même statut, c'est pas la même légitimité à être sur le territoire. Des demandeurs d'asile, parfois, qui viennent de pays comme l'Albanie. Je veux dire, l'Albanie, est-ce que c'est un pays dangereux ou être? Peut-être pour les gens qui sont sous le coup de la mafia albanaise, mais je veux dire, il n'y a pas de guerre civile en Albanie, tu sais. Bon, je prends cet exemple-là, je pourrais parler de la Turquie, par exemple, ou d'autres pays. On a de l'immigration irrégulière, de l'immigration illégale, parfois, qu'on appelle dans certains pays. Il y a de l'immigration de travail aussi. Bon, toutes sortes de catégories d'immigrants pour, au final, parler de plein de gens très honnêtes, en fait, qui veulent juste une meilleure vie, qui veulent juste bien vivre. Parfois, qui font face à du racisme, à de la xénophobie, à de la fermeture, qui n'arrivent pas à s'intégrer dans le pays où ils arrivent. Donc, dans ce temps-là, qui restent entre leur communauté. Parfois, une partie de ces gens-là qui sont déjà radicalisés quand ils rentrent ou qui se radicalisent sur le sol européen, ça mène à plein de problèmes d'islam politique, notamment, qui se développe, notamment en Belgique. Il y a un parti islamiste qui est au Parlement. Ouais, c'est spécial. Bon, islamique, là. Donc, l'extrême droite, en fait, peut faire beaucoup de points politiques sur cette immigration qui semble parfois hors de contrôle. En Suède, il y a eu une explosion du crime depuis 2015, depuis la vague d'immigration massive. L'extrême droite est encore là, un soutien au pouvoir là-bas. Bon, je ne ferai pas le portrait de toute l'Europe entière, là, mais je pense que, en tout cas, s'il y a des gens qui s'intéressent à la question, je leur conseille d'aller voir le Danemark, où les sociaux-démocrates, donc le parti de gauche, a une ligne depuis plusieurs années qui est de dire « Nous, on est plus ferme en immigration, mais de façon humaine. » Et ça semble fonctionner au Danemark. L'extrême droite n'est pas forte au Danemark. Moi, ce que je dirais peut-être à l'OVP, au SPO, tous ces partis-là, c'est considérer peut-être qu'il y a une partie des préoccupations de la population qui sont légitimes, puis traiter-la de façon humaine. pas comme un parti d'extrême droite un peu coucou. Parce que ça fait des résultats comme on peut voir en ce moment en Autriche et ça rend le pays difficilement gouvernable. Bon, sur ce, ça fait un peu le tour. Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça?
Mais, clairement, on voit que la tendance à la polarisation puis un peu à... Pas l'émiettement ou pas l'espèce de...
La fragmentation.
Merci. La fragmentation de l'électorat est vraiment confirmée. Là. On a eu les élections françaises, on a eu les élections aux Pays-Bas. Il y a peut-être le Royaume-Uni là, qui a une vague des partis travaillistes, mais bon, le Royaume-Uni, c'est une île.
Puis c'est un mode de scrutin différent aussi.
C'est un mode
aussi.
De scrutin différent, c'est pas de l'Union européenne. Mais clairement, là, sur le continent, le vieux continent, on a une tendance là, quand même forte à cette fragmentation de l'électorat et la polarisation politique qui favorise, semblerait-il, l'extrême droite de façon quasiment systématique. L'Autriche en est le dernier exemple là, que Renaud a analysé avec acuité. Clairement, j'ai l'impression que ça va faire des émules, qu'on va juste voir de plus en plus d'exemples de ça. En Allemagne, peut-être que la coalition va éclater. Aux prochaines élections allemandes, qu'est-ce qui va se passer? Là, en Pologne, il y a eu un retour de d'un parti euro qui n'est pas eurosceptique, là, un parti pro-européen.
Un parti libéral. Un
parti libéral plus classique.
C'est ça.
Fait, à voir, bien franchement, mais... C'est quand même un peu inquiétant quand l'Autriche revient un peu à des racines qu'on voudrait oublier. Là.
Oh, ouais, des racines profondes. Là. Tu fais référence à un peintre qui a été refusé à l'école de Vienne. Là.
Voilà.
C'est ça. Exactement. Ouais. Ouais. Mais connaissez-vous l'austrofascisme?
Non. Puis, honnêtement...
C'est des curieux, Wikipédia. Vous allez voir ça sur Wikipédia. Avant l'Anschluss, avant que Hitler annexe l'Autriche en 1938, il y avait déjà des fascistes, en guillemets... on peut dire que c'est des fascistes qui étaient au pouvoir en Autriche, mais il y avait certaines choses intéressantes, c'est-à-dire qu'eux, ils étaient plus modérés. Ça fait drôle à dire des fascistes modérés, là. Mais ils étaient plus modérés que les nazis sur certaines questions. Donc la tradition autrichienne fasciste est différente de la tradition allemande. On a parlé de l'AFD en nom de dans les derniers mois. L'AFD en Allemagne, c'est des spéciaux, là. On a du néo-nazi là-dedans à côté, là. L'extrême droite a une... À un moment donné, il faudrait peut-être qu'on fasse un balado là-dessus, mais la pensée d'extrême droite est assez diversifiée. Puis c'est pas chaque pays a une tradition d'extrême droite différente. Ça fait bizarre dit de même. Mais sur un point positif, en fait, là, on n'a pas parlé de la Hongrie. J'en ai pas fait le sujet de ma chronique, mais j'avais considéré le faire. Le parti de Viktor Orban, là, cet homme corrompu et réactionnaire, bon, on pourrait donner plein de qualificatifs, est en déclin en ce moment dans les sondages. Ils sont en chute massive, en fait, parce qu'il y a eu plein de scandales, notamment de proximité ou de... Comment on pourrait dire? De clémence envers des pédophiles.
Ah, ouais. Le fameux scandale qui a mené, si je ne me trompe pas, à la démission de la présidente.
La présidente, oui. Mm. Exact. Donc, puis il y a plein de scandales de corruption également qui éclatent en Hongrie. Donc, le parti de Viktor Orban est dans l'eau chaude. Il y a encore 2 ans avant des élections. Mais si la tendance se maintient, peut-être qu'on pourrait voir l'extrême droite sortir du pouvoir en Hongrie, comme on a pu le voir en Pologne. Donc, c'est intéressant, je pense, il faut pas voir ça de façon fataliste, en fait. Bon, Félix, c'est pas sûr. Moi, j'ai l'impression que le Danemark est un exemple de pays...
Ouais, mais malheureusement, le Danemark... Et le seul pays comme le Danemark.
Mm-hmm.
Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Partout ailleurs en Europe, la droite, ben en particulier, surtout l'extrême droite, le plus que la droite, genre, je dirais pas le vent dans les voiles, mais en tout cas, commence à arriver au pouvoir ou à prendre une partie plus importante des institutions démocratiques. Puis il ne faut pas banaliser. Là, je dis pas que c'est ça qu'on fait, mais genre...
Non, mais
il y a le courant général de la banalisation de l'extrême droite.
Oui.
On parle de l'extrême droite comme si ça serait un parti... comme si ça serait une idéologie qui s'apparente aux autres, qu'on connaît déjà, ou même on l'apparente parfois à l'extrême gauche, alors que c'est totalement différent. C'est une idéologie qui est basée sur la haine de l'autre. C'est purement anti.
Ouais.
C'est non-humaniste. C'est haineux.
Mm-hmm. Donc, ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est un discours qu'a Poilievre, notamment, Pierre Poilievre.
Ouais.
Dans un tweet récemment, il avait dit que socialisme et nazisme, c'est à peu près la même chose.
Mais ça, c'est juste parce qu'il connaît rien en politique ou en histoire. Mais...
Oh, moi, je pense qu'il il connaît. Puis
oui, il mesure, mais...
Il fait exprès de...
Mais c'est un truc de coucou, là.
Ouais.
Dire que les nazis étaient de gauche, là, vraiment.
Ouais. Mais c'est... Ouais, il y a plusieurs manières de voir, en fait, ça, effectivement.
Mm. Mais à suivre dans une prochaine chronique, très certainement, j'ai l'impression, un sujet qui va demeurer d'actualité pour la suite.
Oui. Oui, puis je pense qu'on est désaccord ici parmi les chroniqueurs sur la façon d'approcher l'extrême droite en Europe. Puis c'est correct. Ouais, bref, voilà. On aura l'occasion d'en reparler, probablement. Puis peut-être qu'on pourrait, à un moment donné, c'est ça, faire carrément un balado dédié à la pensée de droite ou conservatrice, puis dissocier parfois. Ben, disons, faire ta gradation, peut-être. Entre du conservatisme radical, du fascisme, etc. Parce qu'il y a toute une gamme, en fait, de gradations qu'on peut faire. Puis ce que je trouve malhonnête, on pourrait dire, pas malhonnête, mais hâtif, c'est de, par exemple, comme en 2016, quand les gens disaient Trump, c'est Hitler, tu sais, d'associer directement les partis de droite radicale au fascisme puis à Hitler. Parfois, il y a des éléments fascistes en leur sein, comme l'AFD, puis il faut, dans ce temps-là, être capable de le critiquer, mais parfois, ça l'est moins, puis c'est juste des effets de discours, des effets de toge, puis en fait, on respecte l'ordre constitutionnel démocratique républicain. Donc, moi, je suis pour faire attention à ne pas faire trop d'amalgame, parce que si on classifie directement les droites populistes comme étant fascistes, le jour où les fascistes débarquent pour vrai, des vrais fascistes débarquent pour vrai, t'as plus d'outils d'identification pour montrer que cette fois-ci, c'est bad, vraiment. Encore plus bad, en tout cas.
Mais on aura l'occasion d'en reparler.
Bah, excusez, je parle beaucoup. Je vais me retenir. Bon, alors maintenant, on va aller en pause, puis au retour, on fera un petit wrap-up, peut-être d'actualité, des petites mentions, puis ensuite, on se laisse. Salut tout le monde. De retour en onde, c'était assez rapide. Oui, nous sommes de retour. Et bon, oui, ce soir, on discutait un peu sujet explosif. Rémi, tu voulais-tu rajouter quelque chose?
Non, mais simplement que faut, c'est bien d'être nuancé. Comme analyste, il faut toujours prendre le temps de regarder les deux côtés de la médaille.
Mm-hmm.
Mais après, il y a des choses à ne pas banaliser et à garder en tête une pensée critique vis-à-vis certains propos qui peuvent en cocher un autre, là, oui.
Ouais, c'est ça. Moi, je suis complètement d'accord. Ouais, c'est ça. Des fois, je m'emporte sans faire toute la nuance du propos. Tout à fait d'accord avec toi, Rémi. Donc maintenant, c'est ça, on peut faire une petite mention. Aujourd'hui, c'est la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. C'est la quatrième année, en fait, que ça a lieu. Donc c'est ça, c'est un peu, on pourrait dire, en continuité avec le processus qui a été amorcé il y a 9 ans, d'essayer de faire la lumière un peu sur l'histoire du Canada par rapport aux Autochtones et notre relation avec eux.
Rétablir le pont
avec
les Premières Nations.
Mm-hmm. On t'entend pas proche du...
Oui. Pardon.
Oui, OK, ouais. Mais donc, c'est ça. Je sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça, mais quand même... en tout cas, moi, ce que je mentionnerais quand même, c'est aussi ça a fait 40 ans qu'il y a eu lieu la tragédie de Kanya-Pisco, qui a été assez oubliée quand même dans l'histoire. En fait, il y avait 10 000 caribous qui ont décidé de traverser une rivière qui était en train de se gonfler. Il y avait énormément de précipitations, un courant extrêmement fort. Puis en même temps, les barrages d'Hydro-Québec ont laissé aller plein d'eau parce que les digues commençaient à être pleines. Il y a eu peu de planification qui a été montrée dans un rapport subséquent. Il y avait eu de la négligence sur ces crues-là. Et en fait, 10 000 caribous, c'est ça, ont péri d'une shot, en fait, dans le coin de Kanya-Pisco, donc dans le nord-nord du Québec. on est presque à Koudjouak, là, mais on est encore dans une région où il y a des arbres. Là. Mais c'est ça. Puis en fait, ça a vraiment traumatisé les Inuits. Puis ça a mené à des années de, disons, de dissension et de non-confiance entre les Inuits et Hydro-Québec. Parlant de ça, ben, il est arrivé quelque chose de triste dans l'actualité la semaine dernière. On a découvert, en fait, qu'il y avait plusieurs communautés autochtones qui payaient, soit par position politique ou par... généralement, par attitude politique envers Hydro-Québec, qui ne payaient pas leur compte d'Hydro. Puis, en fait, ça amenait à des gros débats sur, disons, de quel droit ils se permettent, certains gens ont dit, puis de le côté jusqu'où est-ce qu'on peut justifier ça. Bon, c'est triste que ça tombe en ce moment. Ouais, je sais pas trop quoi dire par rapport à ça.
Mais c'est le débat entre la question de la réparation, la réconciliation et l'équité entre les différents contribuables au Québec, entre les contribuables des grandes villes, des campagnes rurales et les personnes
du Grand Nord.
Du Grand Nord, entre autres, des différentes communautés autochtones. Mais honnêtement, sur ce débat-là, Hydro-Québec a préféré laisser aller dans une attitude de réconciliation. Mais après, c'est que c'était peut-être faisable au niveau économique. On pouvait se le permettre il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, la conjoncture économique et les besoins énergétiques et financiers provenant d'Hydro-Québec, il faut se souvenir que c'est les surplus de revenus créés par la vente d'hydroélectricité produite par Hydro-Québec qui finance le Fonds des générations. Est-ce qu'on peut encore se permettre ce genre de dépassement de coûts, ou plutôt ce non, cette non...
Ouais, puis il faut voir à quel point c'est une marge qui est représentative, ou que, à quel point cette marge-là a un effet... Tu sais, je pense pas que le fait que ces personnes-là ne payent pas leurs factures vraiment en question ou met à risque la pérennité du Fonds des générations.
Ouais, mais il faut faire la nuance de c'est pas toutes les communautés autochtones, c'est pas tout le monde.
Mais c'est un exemple de choses au niveau financier.
Oui,
mais ça, c'est une constellation.
Il y a quand même des millions impliqués. Là.
C'est ça, mais c'est une constellation de fonctionnaires bureaucrates. Mais après, je pense que d'un point de vue, avant que ça explose dans les médias, je pense que c'était la bonne chose à faire pour Hydro-Québec d'un point de vue relations publiques, puis d'un point de vue gestion, acceptabilité sociale, gestion des communautés. Je pense que c'est ça qui était à faire. Mais ça reste... La ligne est mince. C'est pas facile de déterminer ou tracer la ligne entre réconciliation, équité, entre les diverses régions. Là.
Ouais. Donc, je pense que ça fait le tour. On va rapper ça là et on va faire jouer de la musique et on se laisse et on se dit à la semaine prochaine.
Au revoir tout le monde.
Salut.
Merci Rémi, merci Félix et salut... Salut Blaise et salut à tout le monde qui nous écoute. À bientôt.